Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France. Jusqu'à 22h.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL. Sidonie Bonnec.
La musique du générique d'apostrophe, évidemment, pour lancer ce thème, puisque nous recevons quelqu'un qui connaît bien les auteurs, les écrivains et les coulisses des maisons d'édition. Emmanuel Alibert, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes attaché de presse depuis longtemps ?
Depuis 10 ans.
10 ans ? Pour quelle maison d'édition ?
J'ai été attaché de presse pour deux maisons d'édition notoires. La première, c'était les éditions Plomb. Et la deuxième, poste que j'occupe actuellement, aux éditions Jean-Claude Lattès.
Vous avez travaillé avec combien d'auteurs pendant ces 10 années ? Est-ce que vous les avez comptés ?
Écoutez, on va faire un calcul rapide. Dans les maisons d'édition, on publie à peu près 130 livres par an. On est 4 attachés de presse, donc vous divisez 130 par 4, ça fait, je vous laisse, puisque moi ça se fait...
Ah bah ça fait 30.
30, ouais. Voilà.
100, plus, oui, 35.
Voilà,
ouais.
Sachant qu'il doit y avoir...
32 et demi, mais on peut pas les couper en deux, les auteurs.
un renouvellement d'auteurs, on est à la louche, on va dire, ça fait...
Ça fait 300, quoi.
Enfin, ça fait 300 livres, et après, il y a les mêmes auteurs qui
D'accord.
publient.
Hein, voilà. Bon. Donc, oui, c'est pas mal quand même.
150
Oui, on va dire ça. 150 auteurs, ce qui vous a permis cette expérience d'écrire un livre très drôle, Hommage de l'auteur absent de Paris.
Merci.
Publié aux éditions Léo Cher. Ça tombe bien, je l'ai lu. Bon. Parce que dans le livre, vous racontez, c'est face à face improbable entre un auteur qui n'a pas écrit son livre et un journaliste qui ne l'a pas lu.
Mais ça, c'est pas grave. Le journaliste peut ne l'avoir pas lu. Hein. Ça n'a aucune importance, du moment que les questions sont un peu pertinentes.
On va essayer.
Parce que nous, on l'a lu, mais les questions sont un peu pourries.
Oui, ça, c'est sûr. Ça. Surtout que c'est moi qui l'ai préparé. Merci, c'est vraiment sympa. Il n'y a aucun nom d'écrivain dans ce livre, Emmanuel Alibert. Pourquoi ? Vous voulez garder votre job ?
Non, alors, je m'inscris en faux. Si vous aviez lu la page des remerciements.
Oui, c'est vrai.
On ne lit pas les remerciements.
Le juge d'instruction Marc Trévidic.
Exactement.
Et un autre dont j'ai oublié le nom.
Grégoire Delacour.
Voilà, Grégoire Delacour,
voilà,
c'est vrai.
Ce sont mes deux auteurs chouchous et éminents auteurs avec lesquels j'ai été amenée à faire pas mal de choses chouettes en tant qu'attachée de presse.
Pourquoi ce titre d'ailleurs ? Il faut l'expliquer peut-être à ceux qui ne reçoivent pas de livres de la part des maisons d'édition.
Oui.
Hommage de l'auteur absent de Paris.
Alors,
c'est quoi,
ce titre m'amusait particulièrement parce que je trouve que c'est la quintessence de ce milieu qui est à la fois un peu suranné et extrêmement égocentrique. Hommage de l'auteur absent de Paris, c'est un petit Bristol que l'éditeur glisse dans les ouvrages qui sont destinés aux journalistes quand les auteurs ne veulent pas faire ce qu'on appelle le service de presse, c'est-à-dire dédicacer eux-mêmes un livre aux journalistes. Mais ce que je trouve génial dans cette phrase, donc hommage de l'auteur absent de Paris, c'est que d'un, le journaliste aujourd'hui se fout totalement de l'œuvre qu'on lui envoie pour la simple et bonne raison qu'il reçoit autant de livres que de prospectus Domino's Pizza pour n'importe quel citoyen lambda.
Et parfois il lit plus les prospectus.
Parfois, car il y a des promos, ce qui n'est pas le cas dans les livres. Et ensuite, absent de Paris, ça prouve que l'édition est forcément à Paris et que l'auteur, appelé par quelques affaires en province, a dû s'absenter. Enfin bref, j'aime beaucoup cette phrase.
Oui,
dans ce livre, Emmanuel Alibert, vous racontez toutes les étapes de la sortie d'un livre, mais vous commencez par classer les auteurs par catégorie. C'est quoi ces catégories ?
Alors, il y a plusieurs catégories d'auteurs, parce que à la différence de l'écrivain, l'auteur, c'est celui qui a commis une œuvre.
Voilà.
Sachant qu'on peut être auteur sans avoir écrit son livre. Voilà, ça fait partie des catégories.
Ça existe.
Ce qui ne veut pas dire que le livre est mauvais. Il y a des excellents nègres qui font des très bons livres et parfois c'est même mieux que si l'auteur l'avait écrit lui-même.
Ce mot est horrible. En anglais, on dit ghostwriter.
Ghostwriter, oui.
L'écrivain fantôme, c'est quand même un peu plus poétique.
Aujourd'hui, nègre, c'est pour les gens du milieu parce qu'aucun auteur ne vous dira j'ai un nègre. Déjà, il l'avoue très peu et sinon, il l'appelle documentaliste. Ce que je trouve très joli.
C'est celui qui a fait les recherches.
Je l'ai appris en lisant votre livre. Mais effectivement, quand on voit un documentaliste qui est remercié...
Il faut creuser un peu.
D'accord,
donc,
on a compris.
Il y a l'auteur qui n'a pas écrit son livre. Ça, c'est une catégorie, Emmanuel Alibert. Est-ce qu'il y en a d'autres ?
Oui, alors il y a l'auteur qui a écrit son livre. Mais pas très bien jusque-là, parfait. Qu'est-ce que j'ai mis story ? Vous me posez une colle atroce.
C'est pas vous qui avez écrit votre livre, Emmanuel Alibert. C'est terrible.
C'est quoi le bon indice ?
Est-ce qu'il dédicace au moins à Thomas Hugues dans ce livre ?
Je comprends pas.
Non, mais c'est pas vrai.
Est-ce qu'il y a des
indices? C'est une imposture, ce truc est une imposture totale.
Non, attendez, il nous reste une bonne demi-heure ensemble, dites pas ça. Est-ce qu'il y a des indices pour détecter l'auteur qui n'écrit pas son livre? Parce que forcément, c'est celui-là qui nous intéresse un peu plus.
Alors attention.
Celui qui en publie beaucoup dans l'année, c'est
Je vous demande une petite précision, cher Thomas. Oui. Est-ce que vous posez cette question à l'attaché de presse ou est-ce que vous posez cette question peut-être au lecteur qui voudrait savoir si l'auteur a écrit son livre?
Bon, on pose la question à l'attaché de presse en direction du lecteur.
Du lecteur. Voilà.
Non, alors, ce qui est compliqué...
C'est-à-dire plus de 5 par an, on peut douter, c'est ça?
Non, il y a des auteurs extrêmement prolixes, pour lesquels on ne peut pas soupçonner qu'ils aient des nègres. Vous voulez des noms, c'est ça?
Oui, oui.
Emmanuel Pierra, par exemple, qui est totalement insomniaque.
Qui est un avocat,
qui est spécialiste aussi de la juridiction dans l'édition. Quelqu'un d'éminemment brillant et cultivé, qui se passionne aussi bien pour l'art contemporain que pour plein de choses diverses. Écrit énormément, mais parce qu'il a...
Parce qu'il dort peu.
Cette capacité à ne pas dormir.
Et ces fameux ghostwriters, comme dit si bien Thomas, ou ces nègres qui écrivent des livres pour certains auteurs, comment ils sont payés finalement? Ils gagnent bien leur vie?
Oui, c'est assez bien payé. Ouais. C'est rémunéré par une somme forfaitaire et après vous pouvez négocier avec la maison d'édition des droits sur les ventes.
Ah donc ils peuvent avoir un intéressement
eux
aussi.
Oui, bien sûr. Mais comme un traducteur, hein, le traducteur en France touche aussi des droits sur les ouvrages qu'il traduit.
Parce que je pense écrire le prochain roman de Thomas Hugues.
Ça suffit, la machine à vanne. Non, mais cette bretonne prend des libertés dans mes rêves.
Bon, adressez-vous chez Jean-Claude Lattès, cette excellente maison d'édition.
Emmanuel Alibert, il faut expliquer quand même comment ça fonctionne, justement, parler d'argent.
Oui,
c'est quoi, par
ça
exemple,
c'est hyper important, l'argent.
C'est quoi, par exemple, un avaloir?
Alors, un avaloir, qu'est-ce que c'est? C'est une somme que la maison d'édition donne à l'auteur avant même qu'il ait publié quoi que ce soit. Et c'est une avance sur les recettes. Sachant que cette avance ne vous sera jamais demandée à être remboursée. Donc si votre livre est un flop, c'est autant que vous avez. En revanche, les droits d'auteur ne seront comptabilisés qu'à partir du moment où cet avaloir sera remboursé. Je ne sais pas si c'est très clair.
Oui, donc imaginons qu'on touche, 10 000 euros d'avaloir.
Ouais.
C'est un bel avaloir, ça, par exemple?
10 000, c'est énorme. 10 000, c'est
énorme.
Ah,
c'est vrai, voilà. C'est beaucoup.
Mais par exemple, pour parler de ma petite personne, Léo Cher étant une petite maison d'édition, il ne donne pas d'avaloir aux auteurs. Ce qui fait que chaque livre acheté, c'est 1,80€ dans ma poche.
D'accord. Ah oui. Message personnel.
Message
aux auditeurs
personnel,
RTL ce soir.
Exactement.
Si vous voulez aider Valérie Bibert,
un jeune auteur,
à boucler ses fins de loi, ses fins de mois, c'est drôle le lapsus. 1,80€ par livre. Et c'est donc ça va crescendo, c'est-à-dire
en fait, c'est
que plus vous vendez de livres, plus l'intéressement est intéressant.
Oui.
Et
la
bon pour
plupart des contrats sont divisés en trois. C'est hyper technique. C'est la règle qu'on appelle le 10-12-14. Ça, c'est pour les bonnes maisons d'édition, ce qui est le cas chez Léo Cher. Sinon, il y a les maisons Radin qui font du 8-10-12. C'est-à-dire que de 0 à 5 000 exemplaires, vous touchez entre 8 et 10% des droits.
Oui.
De 5 000 à 10 000 exemplaires, vous touchez entre 10 et 12%. Et ensuite, au-delà de 5 000, c'est... voilà. Mais tout ça, ce sont des choses... Ça, c'est un contrat type. Après, c'est négociable, bien sûr, si vous êtes une grande star. Si,
bien sûr.
Ça,
c'est quoi le plus gros avaloir que vous ayez versé ou que votre maison d'édition ait versé?
Je ne verse rien, mais on entend parler de sommes assez phénoménales parfois. Ce fut le cas il y a 5 ou 10 ans, ça allait beaucoup moins aujourd'hui. La faute à la crise, mon bon monsieur, ma bonne dame.
Non, mais pour donner un ordre d'idée, on ne va pas vous dire combien touche, Lévy, par exemple, Marc Lévy.
Non, mais ça, en plus, j'en saurais strictement rien.
Donc, c'est pour ça qu'on vous pose pas la question.
Encore
une fois, ça peut être quoi? Ça peut être, 100 000 euros, 200 000 euros, peut monter aussi haut?
Ça peut monter aussi haut, mais toute la question, c'est, vous savez, c'est une projection que la maison d'édition fait sur son auteur. Donc,
c'est en fonction de son potentiel.
Exactement,
de succès,
potentiel. Et après, il faut savoir aussi qu'une maison d'édition investit pas mal et met de l'argent avant même que l'auteur ait rapporté quoi que ce soit. Avaloir ou pas d'avaloir, c'est-à-dire que moi j'ai pas touché d'avaloir, mais la maison a quand même déboursé de l'argent parce que il y a une attachée de presse qui s'occupe de moi, il y a eu un graphiste, il y a eu du papier, il y a eu tout un tas de choses.
Bon, l'auteur a trouvé un éditeur, l'œuvre de sa vie va sortir, il faut préparer la promo et là notre invité attaché de presse joue un rôle central. Emmanuel Alibert a même parfois le destin du livre entre ses membres.
Et
on raconte
oui.
Pourquoi dans un instant sur RTL.
Tremblé, auteur.
RTL. La curiosité est un vilain défaut. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Et dans la curiosité ce soir, on pousse la porte d'une maison d'édition pour vous dévoiler les coulisses d'un cercle très fermé, celui des auteurs. Notre invité Emmanuel Alibert est attaché de presse d'une maison d'édition. Et dans votre livre, Emmanuel, hommage de l'auteur absent de Paris, vous pratiquez pas mal l'autodérision et vous commencez d'ailleurs en écrivant qu'il n'y a pas de définition de votre métier attaché de presse dans le dico.
Non, ça n'existe pas.
Mais c'est pas vraiment possible. En fait, c'est un métier quand même.
Je sais pas.
Vous en doutez encore après 10 ans.
J'en doute après, ouais. Non, mais c'est pas un métier qui demande des compétences techniques. Vous apprenez pas.
Mais il faut savoir vendre ses auteurs.
Oui, non, mais voilà. Mais en fait, il faut mettre sa cape d'attaché de presse et puis jouer au directeur de communication. Ça m'arrive parfois. Hein, je suis en face d'auteurs prestigieux, qui ont des boulots assez importants, etc. Puis j'ai un bonhomme dans la tête qui me dit : donc toi, tu es en train de le conseiller. Voilà.
C'est ça. Lui qui vend 6 millions de d'ouvrages.
Ça. Non, mais l'idée, c'est quand même le grand bluff. Et en fait, il y a que deux exemples de l'attaché de presse dans l'imaginaire collectif. C'est le sketch d'Elikaku qui est attaché de presse cinéma, une espèce de rousse hystérique qui n'est pas très éloignée de ce qu'on vit tous les jours. Et puis il y a Odile de Rey dans La Cité de la Peur, celle qui s'accroche aux journalistes en disant : vous voulez mon dossier de presse ? Ça, c'est moi, au quotidien.
Emmanuel Alibert, vous donnez des conseils aux auteurs, vous nous en parliez. Mais vous êtes aussi la nounou des auteurs. Comment ça, la nounou ?
Alors, pourquoi la nounou ?
Babysitting le soir, non, c'est pas ça.
Oui, il se trouve que là, mon attaché de presse n'est pas là, c'est un scandale. Virez-la d'ailleurs. Mais j'accompagne très souvent les auteurs sur des émissions auxquelles ils sont invités. Mais ça, c'est quand même quand les auteurs sont invités. Ce qui est quand même le luxe. C'est l'auteur qui fait de la promo. Ça, c'est chouette. Parce qu'il y a aussi l'auteur dans l'indifférence générale.
Ça veut dire que la
nounou
vient
pleurer. Et ça, on fait aussi du maternage en lui disant : mais non, mon petit chéri, ton livre est formidable. Ces journalistes sont complètement stupides.
Ils ne reconnaissent pas ton
talent. C'est la faute à l'an 15. Voilà. Grâce à votre invité, là, moi, je vais avoir des excuses à mort pour toute cette année.
Et vous rigolez aussi, Emmanuel Alibert, du pouvoir qui est le vôtre. Quel est votre pouvoir sur les auteurs ?
Oui, enfin, supposé.
Si vous aimez pas le livre d'un auteur, vous pouvez.
Non, mais alors ça, on s'en fiche en fait de savoir si j'aime ou j'aime pas, parce que je suis pas censée avoir le même goût que tous les journalistes, voilà. Et que l'idée, c'est, on s'en fiche de savoir encore une fois si j'aime. Bon, il se trouve que on va pas se leurrer. Si j'aime un auteur, je le défendrai mieux. Enfin, je parle pour moi hein, en tous les cas. C'est, il me semble un peu humain. L'idée, c'est de faire passer l'info que le livre est là et de faire en sorte qu'on en parle au maximum. Donc que j'ai aimé ou pas, c'est pas grave. D'ailleurs, on a des ouvrages qui vous irritent parce que ça heurte vos convictions. Et là, on va faire un boulot dingue parce que tout d'un coup, on va trouver tous ceux qui vous irritent aussi. Ça va marcher comme ça.
Ouais. Mais parce qu'il faut se faire remarquer dans un univers ultra concurrentiel. Il y a combien de livres qui paraissent pas une rentrée littéraire, par exemple
Rien que pour la rentrée de janvier, là, qui est dite la petite rentrée, c'est 549 ouvrages de littérature française. Et je vous parle pas des étrangers. Donc, inutile de vous dire que...
De littérature, donc ça veut dire des romans.
Non, hein. non, que des romans.
C'est gigantesque.
Voilà. Bon, le mien doit se placer là aussi, hein, je pense, dans littérature, enfin.
D'accord.
Genre
hybride, on va dire ça comme ça. Et donc, évidemment, tout le monde rêve du Graal, la promo télé. Alors, quelles sont les émissions les plus recherchées ?
Les émissions les plus recherchées, c'est Ruquier. En télé. Hein.
L'émission du samedi soir.
L'émission du samedi soir, on n'est pas couché.
Sur France 2.
Voilà. Et la grande librairie sur France 5.
François Bunel.
Voilà, François Bunel. C'est les deux émissions où on sait que le lendemain, en librairie, il va se passer quelque chose.
Et pourtant, l'émission de Ruquier, elle n'est pas facile à passer toujours pour les auteurs, parce qu'il y a deux chroniqueurs qui passent au crible l'auteur.
Exactement. Elle est assez redoutable parce que ça peut être tout ou rien, en fait. Voilà. Il faut être bon. Mais alors, il faut savoir aussi que Laurent Ruquier ne prend pas non plus n'importe qui. Donc, il prend des auteurs qui sont soit très connus, soit qui sont bons clients.
Mais est-ce que vous les coachez?
Oui.
Avant une émission comme
ça s'appelle le media training.
Et vous leur donnez quoi comme conseil?
Alors, on va dire préparation, bon français.
Exactement, préparation. Non, mais parce qu'en communication, vous savez, on adore cette espèce de métalangage.
Voilà. Sérieux.
Exactement, tout d'un coup, on fait pro. Je vous rappelle que je mets ma cape d'attaché de presse.
Alors, ils s'entraînent. Comment s'entraînent-ils, ces auteurs, avant d'aller chez Ruquier?
Déjà, on leur donne des conseils vestimentaires. Parce qu'il n'y a rien de pire que l'auteur qui est fringué comme un sac. Non, mais c'est vrai, c'est important.
À la fois, un auteur avec une petite veste râpée en velours, ça le fait, non?
Ça le fait, mais bien sûr. Mais
oui, c'est
pas tout ça. Voilà.
Donc on enlève le sweat, on met la veste.
Non, mais aujourd'hui, on est dans une ère de communication hyper importante où tout est important, l'image, la façon de parler, le vocabulaire, la diction. Et un auteur, c'est tout l'opposé de ça. C'est quelqu'un qui vit chez lui, en reclus.
Il est libre.
Il est libre, max, qui passe 4 ans de sa vie à travailler sur un sujet. Et puis tout d'un coup, paf, il est lâché dans l'arène. Et ça, c'est très dur pour lui.
Et ça peut très très mal se passer. Est-ce que c'est
est-ce que vous avez vécu
dangereux pour un pour un auteur? Est-ce que vous une prestation télé
ça peut être dangereux parce que c'est très dangereux pour son propre ego en fait parce que ça fait très mal de se sentir débile en fait et non mais c'est vrai mais ça veut pas dire qu'il l'est forcément mais je veux dire
racontez-nous sans forcément citer l'auteur si ça vous pose un problème mais qu'est-ce qui lui arrive il suit à grosses gouttes il bafouille
il est complètement tétanisé il bafouille il a peur et du coup il aligne pas trois mots il est sinistre il parle non mais c'est vrai parce que ça t'as rien de... En fait, voilà, ce qu'on attend à la télé, c'est un bon client, quelqu'un qui va faire de l'événement, quelqu'un qui va parler. On s'en fout en fait de ce qu'il raconte. Ce qu'il faut, c'est qu'il ait un.
C'est terrible.
Non, mais c'est vrai. Il faut qu'il ait un débit un peu riche, etc. Qui rebondisse, qui n'hésite pas à couper la parole. Voilà. Et il y a rien de pire que celui qui reste totalement qui est tout blanc et qui manque de défaillir et qui ne place pas un mot.
Et alors là, l'attachée de presse nounou, elle fait quoi après cette prestation
de presse, elle
télé
Elle suit à grosse goutte en régie déjà ou en coulisses en se disant mon Dieu, voilà. Elle prépare une tonne de petites remarques positives, comme « mais non, mais tu avais l'œil brillant », qui le réconfortera à la sortie de l'émission, et voilà.
Emmanuel Alibert, heureusement, il y a aussi les salons, les foires aux livres, et là, c'est un peu le bal des égos hein, qui commence ou qui continue d'ailleurs. Dès le départ d'ailleurs, à la gare ou dans le train, il y a déjà des stratégies, lesquelles ?
Ouais. C'est l'auteur se pose en fonction des autres auteurs. Alors souvent ceux qui sont sympas dans les salons du livre, j'ai remarqué, c'est les people qui écrivent parce que eux ils ont l'impression qu'ils rentrent dans un cercle qui leur est totalement obscur et du coup ils sont hyper humbles par rapport à un ego qu'ils pourraient avoir à l'extérieur. Et en revanche celui qui est super fort dans sa position, c'est l'auteur qui vend bien, qui est hyper rodé à l'exercice. Voilà, donc il va y avoir des espèces de stratégies de rapprochement où un people va se rapprocher d'un auteur un peu connu pour que l'autre lui explique comment ça marche. Enfin voilà, c'est assez rigolo.
Et puis une fois qu'on arrive au salon, évidemment du livre, il y a le moment du placement de la place finalement qu'on a dans ce salon. Et souvent l'auteur Emmanuel Alibert, il est déçu.
Mais l'auteur est déçu parce que l'auteur aimerait être mis en avant et il est rangé à côté des toilettes du PC sécurité parce que au centre de la foire, on va mettre ceux qui vendent le plus. Voilà. Et ça c'est ça qui est assez difficile pour un auteur, c'est que ce qui compte en fait, c'est est-ce que vous vendez ou est-ce que vous vendez pas.
Heureusement, il y a la fille qui s'occupe des salons.
Ouais.
C'est horrible dans votre livre.
C'est qui celle-là ?
Personne connaît son prénom, mais c'est
non,
pas vrai. C'est
mais
pas
si
possible.
Personne connaît le prénom des filles qui s'occupent des salons, c'est un boulot horrible. Il y a rien de pire que faire. Déjà attaché de presse parfois, c'est pas bien reluisant. Mais alors la fille qui s'occupe des salons.
Ça, c'est les auteurs qui disent ça. Elle est où la fille qui s'occupe du salon, c'est ça ?
Ouais. La fille qui s'occupe des salons, elle fait vraiment la nounou plus, c'est-à-dire qu'elle fournit à manger, elle explique où sont les toilettes, où on va aller dormir, et elle prend les billets de train.
Et heureusement qu'elle existe.
Et heureusement qu'elle existe.
Évidemment.
Hyper sympa.
Rendons hommage aux filles qui s'occupent des salons.
Exactement.
Il y a aussi évidemment la course au prix littéraire qui peut réserver quelques mauvaises surprises, lesquelles vous le saurez dans un instant. Restez avec nous sur RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité sur RTL avec Emmanuel Alibert, attaché de presse dans l'édition Auteur, puisqu'elle publie Hommage de l'auteur absent de Paris aux éditions Léo Cher. On va pas parler de la mise en abîme de cette histoire. Vous êtes vous-même auteur. Vous parlez des auteurs. On ne sait plus où on est. On ne sait plus qui vous êtes.
C'est horrible.
Mais on va être beaucoup plus prosaïque avec la question d'un de nos auditeurs. Gauger, je pense que c'est son pseudo qui nous appelle de Maine-et-Loire. Quels sont les moyens pour un écrivain débutant pour pouvoir éditer son livre sans trop débourser?
Normalement, vous devez éditer votre livre sans débourser.
Bah oui.
Peut-être un timbre, mais
c'est envoyer son manuscrit.
Non, c'est trop cher.
Vous dites qu'il faut surtout pas l'apporter
non.
soi-même.
Alors surtout, par pitié, n'apportez pas vos manuscrits dans les maisons d'édition.
Ça fait misérable ?
Non, c'est pas misérable. C'est tous les fous à vendre un manuscrit dans les maisons d'édition. Voilà.
Donc c'est le meilleur moyen de jamais le voir édité.
Mais je ne sais pas pourquoi ceux qui déposent leurs manuscrits sont souvent assez barrés. Mais pour avoir un bureau à côté de l'accueil et d'entendre les gens, on sait déjà que rien qu'à leur façon dont ils rentrent en disant « Bonjour, je viens déposer un manuscrit !» On sait déjà qu'il va y avoir le tampon refusé.
C'est terrible. Il faut l'envoyer par la poste.
Non, il faut que vous ayez un poisson pilote. Il faut que vous connaissiez quelqu'un qui vous introduira auprès de l'éditeur.
Ah, mais ça, c'est difficile.
C'est pas juste, ça.
Oui, mais c'est comme écrire un bon livre, hein, c'est difficile.
Ça veut dire que les éditeurs ne lisent pas les livres et les manuscrits non plus ?
Non, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de bon livre qui ne soit pas édité. Voilà, ça c'est une règle d'or. Sachez que si votre livre est bon, vous serez forcément édité.
Ah bon, c'est bon signe, c'est rassurant.
Même si on connaît personne dans la maison d'édition.
Même si vous connaissez personne, tous les manuscrits que la maison d'édition reçoit sont tous lus, toutes les maisons d'édition confondues. D'ailleurs, je vous encourage à envoyer à plusieurs maisons d'édition et vous verrez que si votre livre est bon, plusieurs maisons d'édition vous répondront.
Bon, alors, imaginez, bon conseil pour Gauger.
Exactement, merci. Imaginez, Gauger est publié, il peut prétendre à un prix, il en existe 3200 des prix littéraires en France, c'est vrai ça?
Il en existe un nombre pharaonique, vraiment. Des prix
c'est
pour
pas
tout.
Un chiffre que vous avez inventé.
Peut-être 3200, mais enfin, en tous les cas, si c'est pas 3200, c'est 3400.
Il y a le prix Mousquetaire, du nom des supermarchés du même nom. Non, mais il existe
vraiment.
C'est l'invention de l'auteur. Ah oui.
Bah, j'ai eu peur.
Non, ça, c'est moi qui l'ai inventé. Non, mais il y a le prix des centres culturels Leclerc. Il y a le prix. Il y a plein de prix de. Il y a le prix RTL Lire. Il y a le prix L'Express. Il y a le prix de. Chaque magazine a à peu près son prix, mais c'est surtout les prix régionaux qui sont les plus marrants. Quoi.
Oui, mais c'est ça, parce que bon, là, vous venez de citer des prix sérieux. Mais, ouais. Mais parfois.
Je n'ai pas cité le Goncourt. Hein.
L'auteur pense qu'il va avoir un prix. Très réputé et puis il se retrouve dans une petite ville un peu perdue.
Mais
et
c'est tout le paradoxe de l'auteur, c'est que vous vous attendez à quelque chose d'énorme, vous attendez à avoir le prix Nobel, vous attendez à avoir le prix Goncourt, enfin vous espérez secrètement,
bien
puis
sûr.
Vous retrouvez avec des choses un peu moins prestigieuses.
Mmh. Et vous retrouvez avec des auteurs un peu désolés qui pensent qu'ils auraient dû avoir ces prix-là?
Mais bien sûr, car leur livre était éminemment brillant et le méritait.
Alors on va continuer de raconter les coulisses de l'édition avec vous, Emmanuel Alibert. Et alors, il y a quelque chose que moi je connaissais, mais je suis sûr que de nombreux auditeurs d'RTL vont le découvrir. Ça s'appelle les résidences d'auteurs. C'est quoi les résidences d'auteurs?
C'est une poche à argent. Ce que je trouve génial une poche à argent. Ce que je trouve génial dans le métier d'auteur, c'est que vous ne vous rendez pas compte, comme c'est la manne céleste. Il suffit d'appuyer sur un bouton et tout d'un coup, on vous offre le gîte, le couvert, la possibilité d'écrire dans des cadres paradisiaques. J'invite tous les apprentis auteurs à aller.
On peut appeler un hôtel de luxe et faire bonjour, je suis auteur, je voudrais une chambre, c'est ça?
Non, mieux encore. Vous avez un site qui récapitule toutes les résidences d'auteurs, c'est-à-dire tous les mécènes qui vont permettre à des auteurs qui ont déjà publié ou pas, ça dépend des contrats, de leur payer un mois ou deux mois ou trois mois où ils pourront assouvir leur passion et ne feront qu'écrire. Et ce qui est génial,
vous dites c'est que c'est des qui sont payés pour être en vacances, ce qui est un peu dur parce qu'ils écrivent, mais oui, on n'en est pas loin parce que c'est dans un lieu paradisiaque. Parfois.
Exactement. Non, mais en plus, bon, ça c'est aussi le mythe de l'écrivain où l'écriture est une douleur, c'est horrible, il faut qu'il sorte ses tripes. Enfin, ça va, c'est pas
non plus. Vous n'avez pas souffert quand vous avez écrit votre livre?
Non, franchement, non, je me suis marrée. Enfin, voilà, si ça m'a privé de quelques siestes, c'est tout. Mais
comment ça marche?
En même temps, je suis pas vraiment auteur, donc.
Oh, mais si.
Non, un vrai auteur, c'est quelqu'un qui fait un roman.
Non, c'est bien quand même. Vous aurez peut-être le prix.
Ah, dites-moi.
Le prix Mousquetaire.
Ça a été dit sur RTL.
Non, mais pour bien comprendre ces résidences d'auteur, il faut quoi? Déposer
un dossier.
Avec le thème du roman, avec
oui,
ce que
alors,
vous reprochez d'écrire.
Encore une fois, là, pour le coup, le chapitre qui est consacré à la résidence d'auteur dans ce livre est totalement véridique. C'est-à-dire que vous tapez résidence d'auteur sur un moteur de recherche connu et vous allez trouver tous les moyens qui vous permettront d'écrire. En fait, le problème de l'écrivain, c'est que comme être écrivain, ça n'assure pas de payer son loyer, il faut bosser. Et quand on bosse, on a peu de temps pour écrire.
Donc, la plus belle des résidences d'auteur, c'est où?
C'est la Villa Médicis.
Ah oui, c'est en Italie,
c'est
évidemment.
En Italie.
C'est à Rome.
C'est à Rome.
C'est à Rome.
Ah oui, c'est
voilà.
Pas mal quand même.
Un an.
Emmanuel.
Ouais.
Donc, un
chaque
an.
Année, il y a un auteur qui vit à la Villa Médicis pendant un an et qui est payé pour écrire.
Bon, allez, on termine avec une recette, si vous voulez bien nous lire la recette du best-seller.
La recette du best-seller, mijotée aux petits oignons. Alors, pour 250 000 exemplaires, préparation d'une semaine, cuisson 5 mois. Pour les ingrédients, 2 kilos de poncif, 500 g d'amour dégoulinant, 500 g d'action, 500 g de social, une pincée de fantaisie et 18 litres de café. Ça sera pour la préparation.
Et la préparation, dites-en un peu plus, c'est quoi après?
Eh bien, la préparation, vous faites chauffer votre éditeur à 250 degrés en lui promettant Monts et Merveilles. Vous commencez par l'amour dégoulinant. Hein. L'idéal, c'est d'utiliser Roméo et Juliette. Hein. On n'a rien fait de mieux depuis. Des héros attirés irrémédiablement l'un par l'autre. Un secret terrible, destin qui les frappe violemment. C'est vraiment trop injuste. Et puis, vous ajoutez quelques scènes de cul de ci, de là, parce que l'érotique fait des miracles. Et enfin, vous remplacez l'ecclésiastique par un coach ou un psy, qui sont plus faciles à trouver de nos jours. Je vais y arriver. À ce stade, la préparation ressemble à un conte de fées moderne.
Ça doit cuire combien de temps, jusqu'à ce qu'on en note la recette? une année.
Alors, Alors attendez, c'est ça. À peu près.
Bon, bah voilà, on a tous noté.
On vous livre ça l'année prochaine.
Vous verrez tirer la cuisson à la pointe du stylo.
Merci Emmanuel Alibert. Votre livre Hommage à l'auteur absent de Paris est publié.
Merci à vous.
Aux éditions Léo Cher.
C'est la fin de cette émission. Vous pouvez nous podcaster sur RTL.fr et vous avez le bonheur, oui, c'est vrai, de nous retrouver demain à 20h.
J'espère bien. Allez, un thème demain, une prof de lycée.
Moi, j'y serai.
Merci, Emmanuel Alibert.
Tous les soirs.
Vous dites ça pour nous envoyer vos auteurs, vos prochains.
Par exemple.
On a plus de temps pour les thèmes, figurez-vous.
Bon, c'est pas grave. Vous revenez demain, ce sera passionnant. Tout de suite.
Dans un instant, c'est le grand soir avec Agnès Bonfillon et Christophe Paco, RTL. Il est 22h.
Vous écoutez RTL.